Vous êtes à l'écoute de France Inter, il est 8h23.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien un essayiste qui publie le nouveau modèle français chez Alary Éditions. Le livre sera en librairie dans pile une semaine. Vos questions, vos réactions au standard, amis auditeurs, 01 45 24 7000, réseaux sociaux et puis l'application mobile de France Inter. David Jayce, bonjour.
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 Quelques mots pour vous situer. Vous avez 30 ans. Vous avez obtenu votre bac avec une moyenne de 19,97 sur 20. Je ne sais pas dans quelle matière vous vous êtes planté. Vous êtes normalien, énarque, enseignant à Sciences Po. Voilà pour le CV. Après votre précédent essai remarqué Slow Démocratie en 2017, vous publiez donc le nouveau modèle français, un manuel aux idées parfois étonnantes, parfois détonnantes, pour sortir de la torpeur de ce que vous appelez le grand malheur français. Donc vous y croyez encore. Vous êtes optimiste, on peut encore changer les choses et sortir la France de sa langueur ?
Vous pensez que si je n'y croyais plus du tout, je me serais fatigué à écrire ce livre
Ah, il y en a qui n'y croient plus et qui en écrivent beaucoup, hein.
C'est vrai. Mais en général, ils ont 70 ans de moyenne d'âge.
Oui, vous 30.
Et je ne serais pas non plus venu sur ce plateau ce matin. Plus sérieusement, vous l'avez dit, j'ai 30 ans, mais si vous m'avez affublé de tellement de médailles et de breloques que j'ai l'impression de ressembler à un maréchal soviétique. Je sais pas comment je vais faire pour courir le marathon de cette interview avec toute cette bimbeloterie sur moi. Mais plus sérieusement, vous savez, j'ai 30 ans et j'ai toujours entendu autour de moi parler de crise, de mélancolie, de malheur français, de déclin. Et franchement, et je pense qu'on est nombreux dans notre génération, j'ai pas envie de passer ma vie à entendre ces mots-là. Voilà. Et je suis sûr que l'histoire de France, en quelque sorte, plaide pour nous, parce que quand on la regarde un peu avec honnêteté et sur le long terme, on voit que c'est une sorte d'oscillation, de désastre et de triomphe. Et parfois, le triomphe jouxte le désastre. Je prendrai juste deux exemples avant d'arriver à maintenant. 1870, c'est la défaite franco-prussienne. L'empire de Napoléon III, qui était plus fort que jamais, est anéanti. La France est au bout du rouleau. Et pourtant, dans les années 1870, ça va être les débuts de la Troisième République, l'instruction dans les campagnes, ça va être les grandes lois de liberté. Si on peut se parler aujourd'hui, c'est grâce à la loi de liberté de la presse. Et 1945, c'est exactement la même chose. 1940, Marc Bloch disait, c'est le point le plus bas de notre histoire nationale. Et puis la collaboration, tout ce que vous savez. Et en 1945, il se passe quand même quelque chose dans le pays, malgré les oppositions politiques très fortes, une effervescence et un modèle français dans l'après-guerre s'élabore.
D'ailleurs, vous êtes nostalgique de ce modèle français de 45, on va en parler dans un instant, mais vous citez la phrase de l'écrivain Sylvain Tesson qui l'a prononcée à ce micro même il y a quelques années, « La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer ». Vous écrivez que le discours sur le déclin a pris des proportions quasi obsessionnelles ces dernières années, et vous soulignez ce paradoxe, 85% des Français se déclarent plutôt satisfaits de leur situation personnelle, et en même temps, ils ont l'impression que la France est sur la pente du déclassement permanent. Pour vous, la raison est simple, c'est qu'il n'y a plus de modèle français. Expliquez-nous.
Alors, c'est qu'il n'y a plus de modèle français parce que cet écart entre bonheur privé, on va dire, même si effectivement il y a beaucoup de précarité et de difficultés, mais les gens sont plutôt satisfaits de leur situation personnelle. Et ce qu'il faut bien appeler un malheur public. Je rappelle quand même qu'en 2015, il y avait une enquête BVA qui disait que les Français étaient presque aussi malheureux que les Irakiens quant à leur avenir collectif. Alors, on pourrait dire c'est des caprices de riches, c'est un peu indécent, mais si on creuse un peu, on se rend compte en fait que c'est parce que la France, plus que n'importe quel autre pays, c'est une civilisation politique. C'est-à-dire que depuis 1789, notre lien, il est politique. Il y a cette phrase de Machiavel que j'aime beaucoup qui disait « J'aime ma patrie plus que mon âme ». Ça veut dire que ce qui nous constitue, c'est notre être politique. Et force est de reconnaître que depuis que le modèle d'après-guerre, d'après 45, s'est étiolé à la fin des années 1970, nous n'avons plus de modèle collectif pour nous projeter dans l'avenir.
Et ce modèle, donc, d'après 45, Conseil national de la résistance, la France du général de Gaulle par la suite, ce modèle-là est mort, on est d'accord.
Il est en très grave difficulté parce qu'il repose...
Mais il faut tourner la page ?
Non, c'est plus compliqué que ça. Il faut le réactualiser. Il reposait sur trois choses. D'abord, l'idée que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Une confiance incroyable dans l'avenir du Parti communiste au gaulliste. Rappelez-vous ce que disait Maurice Thorez, il faut produire, produire, produire pour moderniser la France, parce qu'à l'époque, tout le monde avait peur que la France devienne comme l'Espagne de Franco, c'est-à-dire se déclasse. Deuxièmement, un développement industriel sans précédent, tiré par l'État. Tous les Françaises et les Français connaissent et se souviennent avec nostalgie du programme Concorde, du TGV, du programme nucléaire, de la découverte de l'ARN messager dirigée par François Jacob. Donc c'était un moment d'effervescence extraordinaire. Et puis troisième chose, la sécurité sociale. Elle est tellement évidente à nos yeux aujourd'hui qu'on pense que c'est comme l'air qu'on respire ou la tarte aux pommes, qu'elle est naturelle. Mais en réalité, quand vous achetez un test Covid, il est financé par la solidarité nationale.
Mais n'est-ce pas étonnant pour un jeune homme de 30 ans d'avoir pour modèle la France de 45? Vous aussi, vous succombez où c'était mieux avant?
Non, pas du tout, parce que justement, ce modèle est en partie dépassé. Il faut le réactualiser. C'est-à-dire que aujourd'hui, on vit l'heure des catastrophes. Hein, la catastrophe climatique étant la première. Vous voyez, le monde se détraque. Moi, je viens d'une ville moyenne qui s'appelle Agen. J'ai appris par votre journal ce matin qu'elle était sous les eaux. Oui. Il y a l'équivalent de 3 mois de précipitations qui sont tombées en une nuit. Et on va voir la planète disjonctée partout autour de nous. Donc la confiance dans l'avenir, c'est pas la confiance de nos aînés en 1945. C'est plutôt l'idée que nous devons faire de ces catastrophes le matériau d'un redressement collectif. Il y a une phrase de Victor Hugo dans Les Misérables qui disait « Étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait ». C'est vraiment ça notre programme quant à l'avenir.
Ouais, sur l'industrie, c'est pas gagné. Hein.
C'est pas gagné, mais
pas sur Victor Hugo,
il faut d'abord le dire. Mm-hmm. Sur l'industrie, on va pas refaire les aciéries et la sidérurgie comme on faisait dans les années 50 à la papa. Non, mais il y a des secteurs d'excellence d'économie du bien-être qu'on peut développer et qui peuvent positionner la France.
Vous allez nous dire de quoi il en retourne, David Jaiz. Vous indiquez donc des pistes. Au fond, pour bâtir un modèle de production, une troisième voie, différente de celle des États-Unis, différente de celle de la Chine. Et vous parlez donc d'une économie du bien-être. Dites-nous de quoi il s'agit, à quoi vous penser.
Alors je vous rassure, l'économie du bien-être, c'est pas juste mettre des salles de yoga partout en France et faire pousser des géraniums sur les balcons. C'est vraiment une économie qui peut être créatrice de valeurs et de liens sociaux tout en étant extrêmement sensible au changement climatique. Je donne quelques exemples. L'agriculture, la santé, le luxe, l'éducation, l'urbanisme durable, le vieillissement, ce sont des secteurs en fait qui sont des secteurs d'excellence française parce qu'on a une très grande tradition. Dans ce domaine, la France était une puissance agricole et elle a gardé cette spécificité. La santé, on a d'excellents services publics, on a un hôpital public, des chercheurs, des soignants extrêmement engagés. Et on peut conjuguer ces traditions, ce savoir-faire, cet art de vivre français avec le meilleur de l'innovation, le meilleur de la science, parce qu'on a aussi des têtes bien faites dans ce pays. Il ne faut pas penser, par exemple, que la santé, c'est juste du service, c'est juste une relation de soins. La robotique médicale, les IRM, les prothèses, c'est de l'industrie, ça crée de la valeur et en même temps, tous ces secteurs sont carbon free, si j'ose dire, c'est-à-dire parfaitement compatibles avec la transition écologique.
Oui, mais n'est-ce pas précisément ce que voulait faire le candidat Emmanuel Macron? Il avait écrit un livre qui s'appelait Révolution, il voulait faire une forme de révolution, il voulait changer le modèle français, il voulait fluidifier les choses, il voulait casser l'assignation à résidence, à résidence sociale, les inégalités de destin. Arrivé au pouvoir, il s'est heurté à des blocages, il a dit lui-même, la France n'est pas réformable, il l'a dit en 2017. Les Français veulent tous un nouveau modèle, mais quand il s'agit de bouger les choses, il bloque.
Je suis pas certain que la France ne soit pas réformable. Moi, je crois qu'elle peut l'être, mais à condition, comme tout corps collectif, qu'on lui raconte une histoire. Vous savez, il y a une phrase de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup, qui dit « Si vous voulez que vos hommes construisent un bateau, ne leur indiquez pas les boulons ou les vis qu'ils doivent utiliser, mais faites plutôt naître en eux et dans leur cœur le désir de la vaste mer. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette bataille des récits, c'est-à-dire la capacité à dire voilà où nous voulons aller pour les 30 ou 40 prochaines années, voilà comment chacun pourra prendre sa place dans cette histoire française, parce que ça ne doit pas être l'histoire pour les winners ou les premiers de cordée, ça ne doit pas être l'histoire pour une partie de la société française, ça doit être l'histoire pour tout le monde. Et si on ne fait pas ce travail de raconter le récit de l'avenir, de décrire par le menu quel peut être ce modèle français, des petites villes, aux métropoles, parce qu'il y a une profonde solidarité des territoires dans notre pays, parce que 1000 fils invisibles nous relient, alors on n'arrivera jamais à faire
les réformes. Vous trouvez que ça manque de vision, là ?
Oui. Moi, j'ai pas d'avis sur ce qui se passe aujourd'hui parce que mon travail.
Enfin, les récits du passé sont extrêmement puissants.
Oui, les récits du passé.
Alors ça, comment on l'explique du coup ?
C'est évident que quand vous avez pas de modèle qui vous projette vers l'avenir, vous vous cramponnez à des récits qui sont souvent d'ailleurs des fantasmes. Il y a des projets de société aujourd'hui en France, mais les seuls projets de société un peu cohérents qu'on voit se déployer, c'est des projets qui nous parlent de guerre civile et de guerre des civilisations à longueur de journée. Excusez-moi, moi la guerre civile et la guerre de civilisation, ça me fait pas rêver. Je préfère la paix civile et la concorde. grande. Et c'est pour ça qu'on a construit la République après 1870. Donc à nous, républicains, de prendre en main notre destin et d'essayer de construire des projets qui puissent fédérer et assurer cette paix civile, mais pas simplement par des slogans, par des actes.
Pardon de revenir à une de vos propositions. Vous dites qu'il faut se projeter sur les 30-40 ans, comment on va changer la France sur 30 ou 40 ans. Vous voulez un puissant commissariat au plan chargé de penser l'avenir du pays en dehors du quotidien de la gestion de l'État et des querelles politiques. Ce commissariat au plan, ce commissaire au plan, il existe. Vous êtes au courant que François Bayrou a été nommé à ce poste-là?
Je ne dis pas le contraire, mais si vous voulez, le commissariat au plan, il faut qu'il ait un rôle beaucoup plus central dans l'État demain. C'est quoi l'État? De Gaulle l'avait dit dans son discours d'investiture. Il disait l'État répond de la France. L'État a fait la nation. C'est comme ça, on n'y échappera pas. C'est notre anthropologie historique, en quelque sorte. Et de ce point de vue, l'État, il est en charge de quoi? De l'héritage du passé, des intérêts du présent et des espoirs de l'avenir. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tombés dans le gouffre de l'immédiateté. Et on y participe tous. C'est le tweet, la polémique, l'actu du jour. Et on est, en quelque sorte, ballotté d'une actualité à l'autre. Et je crois que ça épuise profondément les Français. Ça crée de l'agressivité. On sent quand même qu'il y a une agressivité générale.
Oui, c'est ce que disait Pierre Rosanvallon quand il parlait des passions tristes et du ressentiment
très
fort. Oui,
mais ça crée aussi beaucoup de désengagement. Et si vous voulez sortir de cette mélancolie française, vous devez absolument...
Citer Éric Zemmour, là.
Non, parce que moi, je veux en sortir, justement. Je trouve que la mélancolie, c'est très bien dans les arts, ça a donné le spleen de Paris, mais en politique, c'est jamais bon, parce que comme le disait François Sureau à votre micro, la mélancolie, c'est un manque de vitalité. Et moi, je veux pas de manque de vitalité pour notre collectif. Si on veut sortir de cette mélancolie française, on a absolument besoin de retrouver des projets qui nous fédèrent, et surtout de gagner la bataille des récits.
Petit coup de griffe d'un auditeur, Ripoll, qui trouve que l'atmosphère est d'un jeu désolant. Je ne crois pas que seules les personnes de 70 ans craignent pour l'avenir. Alors précisément sur ce point-là, vous parlez d'une révolution de la longévité. Vous donnez le chiffre qui indique que les 75-84 ans représenteront 6 millions de Français en 2030. Et vous l'écrivez, hein, ce vieillissement n'est pas une calamité, donc vous ne faites pas de jeunisme dans ce livre. C'est une opportunité, une chance. Pour quelle raison ?
D'abord la bataille des mots, puisqu'on parlait des récits. Effectivement, on parle de vieillissement démographique, ça fait peur à tout le monde. Tout le monde se dit la France va être une société de vieillards, ça sera une charge pour la sécurité sociale. En réalité, quand on parle de révolution de la longévité, comme l'a fait Luc Broussy dans un excellent rapport, déjà on inverse les termes. On le voit comme une opportunité. Cette opportunité, c'est quoi? C'est d'être plus solidaires les uns avec les autres. C'est aussi de créer des emplois, parce que 40% des postes d'aidants qui vont être créés dans les prochaines années le seront pour les personnes âgées ou les personnes dépendantes. Et c'est aussi l'occasion de faire de l'innovation sociale. Il y a une petite ville en banlieue de Dijon qui s'appelle Saint-Apollinaire, qui a complètement repensé l'urbanisme pour créer du lien intergénérationnel où les enfants, les personnes âgées, les personnes âgées dépendantes se croisent, font des choses ensemble. Et c'est ça la grande bataille républicaine qu'il faut mener, c'est pas de s'écharper sur la laïcité ou sur je ne sais quoi, c'est de recommencer à faire des choses ensemble, quelle que soit notre condition.
Quel est votre avis sur la réforme de la retraite? Est-ce qu'il faut reculer l'âge de départ à la retraite? Est-ce qu'il faut travailler plus longtemps? Est-ce qu'il faut faire cette réforme des retraites? Est-ce que c'est inéluctable?
Je pense que l'idée de reculer l'âge de départ à la retraite, c'est une idée en fait assez paresseuse. Pourquoi? Parce que si vous décalez l'âge de départ à la retraite, vous gagnez 30 ou 40 milliards d'euros pour les finances publiques. Donc c'est très pratique, si vous voulez. Mais en réalité, d'abord, si vous voulez maîtriser vos finances publiques, il vaut mieux réfléchir aux missions de l'État, aux missions de la sécurité sociale. Est-ce qu'il y a des doublons? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer? Quelles sont les nouvelles missions qu'imposent les défis qui sont les nôtres? Et donc, il faut faire un travail beaucoup plus en décalage de l'âge à la retraite. C'est au fond, c'est un peu paresseux. Donc moi, je suis plutôt favorable à la réforme un peu systémique qui avait été proposée par la CFDT et qui reposait sur
par
retraite
Emmanuel
par
Macron
point.
Également.
Et par Emmanuel Macron, puisqu'il s'agissait de dire on va mieux prendre en compte les carrières un peu hachées, notamment pour les femmes, la pénibilité, les métiers précaires.
Mais vous voyez, ça, il n'a pas réussi
à le
faire.
Ça, on peut pas le faire.
Ça a donné la plus grande grève.
On peut pas le faire dans un pas de temps de 6 ou 8 mois avant 2022. Il faudrait presque un quinquennat pour faire ça. Et je crois que la décision a été prise de la journée, de toute façon.
Si on reprend les choses, David Jaïz, agriculture, santé, éducation, formation, ville durable, silver, économie, transport décarboné, services aux collectivités, énergie propre. Ça, c'est ce que vous proposez et décrivez dans le livre. Mais la France ne deviendra-t-elle pas un joli jardin? jardin coupé du monde. Si vous aimez De Gaulle, vous aimez aussi l'idée de la puissance de la France. Est-ce qu'on sera pas très bien chez nous derrière nos petites frontières ?
Mais il s'agit pas de renoncer à l'idée de rayonnement. Vous savez, c'est François Mitterrand qui disait « Quand la France rencontre une idée, ensemble, elles font le tour du monde ». Ce modèle français, pour moi, c'est aussi un modèle pour faire face aux crises et aux catastrophes du XXIe siècle, mais de façon positive et politique. Et je crois que si nous arrivons à faire ce travail sur nous-mêmes, nous pourrons à nouveau inspirer. Rappelez-vous Renan, en 1870, il écrit ce texte, La réforme intellectuelle et morale. Pourquoi la France a-t-elle été défaite en 1870 ? Parce que les paysans qui étaient dans l'armée française n'étaient pas aussi bien formés que les Allemands. Et Renan dit cette chose, il dit « Évidemment, la France, c'est la patrie de l'universel. Mais avant de retourner vers le vaste monde, elle doit d'abord faire ce travail d'introspection nationale. Pourquoi ça va plus en France ? Comment est-ce qu'on peut repartir du bon pied ?» Et je crois que c'est ça qu'il faut faire.
Une de vos propositions, c'est notamment vous voulez organiser une semaine de la délibération une fois tous les deux ans pour que les citoyens discutent des grands sujets d'avenir. Pardon, mais c'est ce qu'a fait Emmanuel Macron avec le grand débat national. Qu'est-ce que ça a donné ? Vous trouvez que ça a donné des choses, que ça a fait changer les choses ?
Le grand débat national était un exercice extrêmement intéressant, en réalité, puisque les gens, quand vous regardez un peu les minutes de ces débats, ils se sont emparés des questions, ils ont réfléchi, ils ont dialogué. Donc on a eu à nouveau un semblant de conversation publique, et pas juste des tweets et des échanges d'invectives dont on est coutumier. Simplement, si vous voulez, il faut que tout le monde puisse y participer. Il y avait dans le grand débat, c'était quand même une population plutôt aisée, plutôt diplômée, plutôt âgée. Et donc il faut trouver le moyen de ramener vers la cause commune, vers la vie civique, des gens qui ont moins confiance en eux quand il s'agit d'exprimer des idées abstraites, vous voyez ? Parce que il y a une grande révolution aussi ces 30 dernières années, c'est la révolution des diplômés et des surdiplômés. Ils ont un peu confisqué la vie publique. Vous ne pouvez pas, on a l'impression que vous ne pouvez pas vous exprimer sur les affaires publiques si vous n'avez pas bac plus 5. Donc il faut ramener tout le monde.
Ce qui est votre cas, David.
Non mais écoutez,
David Jazz.
J'ai déjà jeté les breloques par terre. Ne me les remettez pas, s'il vous plaît.
On va y revenir quand même avec Benjamin au standard. Benjamin de Saint-Ouen, bonjour. Bienvenue.
Bonjour France Inter, ça faisait longtemps. C'est fascinant, monsieur Giaz, c'est que vous êtes la caricature de l'énarque normalien. Vous venez donner la leçon, comme Attali, comme tous ces gens l'ont fait, qui ont ruiné la France. Et là, vous revenez, vous avez des super idées, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait à part publier un livre, réussi des concours très honorables, mais qu'avez-vous fait ?
Bah, il a 30 ans.
À 30 ans, on peut avoir créé, il y a des gens qui ont créé, Henry Ford avait créé des entreprises à 30 ans. Louis Renault, Citroën, ils avaient créé des grandes entreprises. On peut penser peut-être que monsieur Giaz ferait mieux de déjà démontrer ce qu'il est capable de faire avant d'expliquer qu'il peut changer la société. On dirait Jean Le Canuet, quoi. Sincèrement,
merci Benjamin pour cette question que je transmets au maréchal David Jaïz.
Non, mais écoutez, ça c'est des procès d'intention dont on a l'habitude. Effectivement, moi j'ai fait plein de choses dans ma vie et pas seulement justement écrire des livres. Justement, j'ai eu une vie professionnelle, j'ai grandi, j'ai passé du temps dans plein d'endroits et je crois effectivement que moi si vous voulez, c'est une contribution modeste pour essayer justement d'engager une conversation publique un peu plus positive et un peu plus optimiste sur les années qui viennent. Franchement, si tout le monde pouvait apporter sa pièce au jeu d'échecs, y compris Benjamin, qui a l'air d'être un grand admirateur de Louis Renault, donc je me permettrai quand même de lui rappeler comment a fini Louis Renault, dans une geôle de la résistance pour intelligence avec l'ennemi. Mais blague à part, je pense que chacun, de là où il parle, doit apporter son expérience, et je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas, si vous voulez, laisser confisquer la démocratie par les gens qui ont des diplômes ou par les gens qui sont capables de tenir des discours. Justement, il faut que tout le monde y participe.
Dans le prolongement de ces propos, François, bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Alors, écoutez, ça va résumer très simple. Gestionnaire contre visionnaire, je m'explique. Ne pensez-vous pas justement que l'absence de projet commun et bien plus, je dirais, au personnel politique qui est désormais plus gestionnaire, donc assommé en plus par des moult normes dans tous les sens, européennes, etc., et aussi par l'absence de visionnaire engendré peut-être par une lacune au niveau scientifique notamment, il n'y a pas assez de scientifiques chez le personnel politique, donc incapacité de se projeter et d'avoir des idées dans l'avenir.
Merci à vous pour cette question. David Jaïz, gestionnaire, il y en a trop, visionnaire, pas assez.
J'ai pas grand chose à répondre tellement je suis d'accord avec ce que dit votre auditeur. C'est-à-dire, je pense par exemple que on n'a pas assez de scientifiques, pas assez d'ingénieurs dans l'État. Et on a besoin d'une manière générale, effectivement, de gagner la bataille des récits. Moi, je pense pas par exemple qu'on puisse vaincre le changement climatique si on applique les 21 objectifs du développement durable les uns après les autres, ce qui est l'esprit un peu analytique. On a besoin d'une approche globale et d'une vision d'ensemble. C'est ça qui nous manque et je pense que c'est vers une époque comme ça qu'on va.
On a reçu Arnaud Montebourg à ce micro mardi, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il a défendu l'État, la nation, la souveraineté. Est-ce que vous vous sentez proche de lui? Parce que quand on vous écoute, il y a beaucoup de choses qu'on a entendues chez Arnaud Montebourg.
Bah, écoutez, je pense que Arnaud Montebourg apporte des idées intéressantes dans le débat public. Ça fait en plus, ça fait longtemps qu'il dit ces choses-là sur la souveraineté industrielle, sur le réarmement productif. Donc, il a le mérite de la constance sur ces sujets. Mmh. Après, moi, comme je vous le disais, moi, je suis un écrivain politique. Hein,
vous voulez pas rentrer en politique? Vous voulez pas vous engager en politique?
Je pense que chacun son travail. Vous êtes journaliste. Il y a des politiques qui font des campagnes et qui battent la campagne. Et puis, il y a des gens comme moi, même si ça plaît pas à Benjamin, qui écrivent des livres du haut de leurs 30 ans. Et puis, le temps passe vite. Donc, j'en aurai bientôt 40. Et bientôt 50, et ça l'agacera probablement toujours autant. Mais si vous voulez, je pense qu'effectivement, ces questions de souveraineté industrielle, de patriotisme économique sont centrales. Et d'ailleurs, elles sont en train de prendre une place centrale dans le débat, et c'est une bonne chose.
C'est-à-dire qu'il faut sortir de l'Union européenne?
Non, pas du tout. Je pense pas que le sujet, ce soit de sortir de l'Union européenne. Je pense que le sujet, c'est justement d'essayer de construire un espace de puissance en Europe. Retrouver de la puissance au niveau national, retrouver de la puissance au niveau européen, c'est des choses qui sont parfaitement complémentaires. Et on en a parlé ces derniers temps avec le concept d'autonomie stratégique. L'idée, c'est vraiment de retrouver une capacité à peser, à agir, et ne pas être naïf, en quelque sorte, dans un monde où la puissance américaine, la puissance chinoise, défendent quand même leurs intérêts de manière assez agressive.
Jean-Claude au standard, bienvenue.
Oui, bonjour à tout le monde. Eh bien voilà, j'appelle depuis les Baronnies et donc j'aurais aimé savoir si votre invité pouvait illustrer son propos de reconstruction, de planification dans un secteur ou un autre, étant dans la région, je pense déjà directement au transport, puisque le train venait avant à Buis-les-Baronnies. Est-ce qu'on peut rêver que les deux vallées, vallée du Rhône et vallées du côté de Grenoble, là-bas jusqu'à Nice, seront reliées un jour par un train ou des choses comme ça? On pense à l'éducation. Des enfants dans la région font une heure de bus pour accéder au collège, par exemple. Donc voilà, ou la santé,
Bien compris Jean-Claude, merci pour cette question. David Jaïs vous répond.
On pourrait y passer des heures, mais puisque monsieur parle du train et qu'il a l'air d'avoir des responsabilités dans les transports, est-ce que vous savez que 90% des Français vivent à moins de 10 km d'une gare? Donc c'est énorme. Et pourtant, un tiers de ces gares ne sont pas en activité, parce qu'on a supprimé des lignes de proximité. Mais je crois que le combat pour le rail, c'est pas simplement un combat écologique, c'est un combat aussi pour l'identité de notre pays, parce que notre imaginaire est très lié à celui du rail. C'est un combat qu'il faudra mener dans les prochaines années. Et évidemment, ça suppose une planification. Je pourrais dire la même chose pour la santé ou l'agriculture. La planification, c'est pas juste le charbon, l'acier, les grands secteurs industriels. L'agriculture, par exemple, si vous voulez passer à une agriculture délivrée de la chimie, mais performante, vous avez besoin d'innovation scientifique. Vous avez des entreprises extraordinaires aujourd'hui qui fabriquent des protéines animales ou végétales pour les animaux d'élevage, qui remplacent le soja, qui est le produit de la déforestation de l'Amérique du Sud. Ces boîtes sont extraordinaires, c'est des pépites françaises. Ça n'aurait pas été possible sans un écosystème de recherche et développement et un effort de la puissance publique.
Deux questions, comment dire? Bon, vous allez voir. Elisabeth, sur l'application de France Inter, bravo à votre invité, je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Nous avons besoin de vision et que les Français arrêtent de se plaindre. Et puis Marie vous pose cette question, êtes-vous candidat à la présidentielle?
Non, pas du tout, je suis candidat à rien du tout. Pas même à la mairie de Montboudif. Je suis juste candidat à écrire des livres, même si ça ne plaît pas à Benjamin, et à en discuter avec tous ceux que ça intéresse. Parce que
les questions d'auditeurs sont parfois vinaigrées, sachez-le.
En même temps, c'est intéressant parce que la question qu'avez-vous fait, c'est intéressant parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que faire des choses? Est-ce que créer une start-up, c'est forcément mieux qu'aider des gens dans le besoin, qu'écrire des livres, qu'être enseignant? Parce que dans la question, ce que je n'ai pas apprécié, c'est qu'il y avait le sous-entendu que si vous n'êtes pas Renault, Peugeot ou Elon Musk, vous n'avez rien fait à 30 ans. Et à 50 ans, il faut s'acheter une Rolex. Moi, c'est ça que je n'ai pas apprécié. Je pense qu'on peut faire des choses de toutes les manières. Moi, je fais modestement dans mon coin les choses pour lesquelles je pense savoir être compétent. Chacun fait ce pour quoi il est le meilleur.
Une dernière question, celle de Xavier. Si la France est politique, comme le dit votre invité, pourquoi autant d'abstention aux élections?
Mais je crois que c'est parfaitement lié. C'est-à-dire que la France est politique, mais elle est malheureuse d'être politique. Et demain, si elle arrive à retrouver une conversation nationale vibrante et à se remettre d'accord sur des grands projets d'avenir, elle sera heureuse parce qu'elle est politique.
Le nouveau modèle français chez Alary Éditions, en librairie la semaine prochaine, jeudi prochain. Merci beaucoup, merci. David Jaïs, d'avoir été à notre micro et d'avoir accepté le dialogue avec nos auditeurs. 8h47, la revue de presse à suivre.
France Inter.